Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La présidente brésilienne Dilma Rousseff est menacée de destitution, un feuilleton dont on suit chaque étape sans peut-être bien comprendre le sens général de cette histoire. Cette procédure témoigne-t-elle de la bonne santé de la démocratie brésilienne, de la jeune démocratie brésilienne, ou bien au contraire, s'agit-il d'un coup d'État déguisé? Pour répondre à cette question, c'est le fil de l'histoire brésilienne contemporaine qu'il faut renouer, et c'est ce que nous allons essayer de faire avec nos invités. Tout d'abord, Gilles Lapouge, écrivain et journaliste, vous connaissez bien le Brésil auquel vous avez consacré un dictionnaire amoureux. Hervé Théry est en ligne avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes à São Paulo. Et puis enfin, dans nos studios à Paris, Maria Emilia Alencar, vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne de RFI. Tout d'abord, dites-nous, Maria Emilia Alencar, où nous en sommes dans ce processus de destitution?
Bon, la prochaine étape, c'est le Sénat, le 11 mai. Donc, les sénateurs vont voter cette procédure de destitution. La Chambre des députés a déjà voté en large majorité la demande des procédures de destitution de Dilma Rousseff. Donc, maintenant, la procédure va au Sénat. Elle est accusée de maquillage de comptes public. C'est pas considéré un crime de responsabilité. À mon avis, nous sommes dans une procédure, une manœuvre juridico-politique un peu grotesque, parce que les crimes de responsabilité n'est pas configuré, mais Dilma Rousseff et son gouvernement vivent un processus de perte d'alliance de plusieurs partis qu'on va discuter par la suite. Et on pense que, vu les thermomètres que les journaux brésiliens font tous les jours, combien des sénateurs vont voter pour ou contre, apparemment, elle sera, cette procédure de destitution sera votée le 11 mai. Et à partir de là, elle sera éloignée du pouvoir pendant 180 jours. Et à la fin, il y aura donc un vote en plénière au Sénat et on verra si elle va être finalement destituée.
Voilà. Donc vous diriez que sa destitution est probable?
Si, moi je pense qu'elle est probable. Oui.
C'est également votre sentiment, Hervé Théry?
Je ne suis pas tout à fait sûr, puisque pour l'écarter du pouvoir pour 6 mois, il faut la majorité simple, ce qui est à peu près acquis. Par contre, la destitution vraie au bout des 6 mois, il faudrait les 2/3 des voix, et d'après les pointages qu'on a, ça supposerait que tous les indécis et tous ceux qui ne se sont pas prononcés se prononceront, ce qui n'est peut-être pas sûr.
Mais ce qui n'est pas très clair, Hervé Théry, donc on imagine que si Dilma Rousseff était écartée du pouvoir, comme vous dites, pendant 180 jours, pourrait-elle revenir à l'issue de ces 180 jours?
Techniquement, oui. Si le Sénat, après en avoir délibéré, juge qu'il n'y a pas matière à la destituer, elle reprend sa place normalement. Ça, c'est une hypothèse, ce n'est pas la plus probable, mais techniquement, c'est ce qui est prévu.
C'est quand même très étrange. Ça veut dire qu'elle est mise au piquet, en quelque sorte, pendant 6 mois.
Voilà, ça, c'est le temps d'exercer sa défense, mais elle est mise en accusation d'une certaine façon, et pendant ce temps-là, on lui retire les manettes.
Or, aujourd'hui, donc, on se dit que cette destitution est sinon probable, en tout cas largement réclamée, et on voit au Brésil un débat extrêmement vif sur l'interprétation à donner de cette crise politique, un débat que relaie la presse de gauche en France, notamment l'Humanité, Maria Emilia Alencar. Expliquez-nous dans quelle mesure certains disent que cette destitution est en réalité un coup d'État déguisé.
J'arriverai pas à dire coup d'État, puisqu'on fait toujours une référence au coup d'État militaire quand on pense en coup d'État. Et on a déjà vécu un coup d'État militaire au Brésil. Mais en fait, c'est prévu dans la Constitution, cette procédure de destitution. Donc, ils suivent exactement tous les rituels qui est prévu dans la Constitution. Mais maquillage des comptes publics, c'est ce que tout le monde fait. En fait, tous les présidents ont fait des espèces de dribbler les comptes publics. Donc, ce n'est pas configuré comme un crime de responsabilité. Dans ce sens-là, je pense que c'est une manœuvre juridico-politique parce que le parti des Dilma, qui est au pouvoir avec une crise économique et avec toute une enquête judiciaire qui enquête sur la corruption au Brésil, son parti est impliqué comme tous les autres. Donc en arrière-plan, il y a toute cette idée que c'est le parti, vraiment le grand parti qui a pratiqué la grande corruption. Et à partir de là, il y a tout ce que se mélange et toutes les forces rétrogrades qui apparaissent dans les pays. Et au moment qu'elle a perdu l'alliance du grand parti conservateur PMDB qui l'aidait dans le pouvoir, donc au moment qu'elle a perdu l'alliance de ce parti, elle avait plus le gouvernement avait plus de moyens de continuer. Elle a perdu tout l'appui au Congrès.
Mais on lit aussi, Hervé Théry, que cette manœuvre est finalement commandée par le patronat brésilien. Alors c'est la presse de gauche qui dit cela et qu'en réalité, eh bien, on se saisit de tous ces faits pour renverser un gouvernement de gauche. Expliquez-nous pourquoi, sans forcément d'ailleurs prendre position évidemment sur cette thèse.
Il est certain que le patronat, notamment le patronat ici de São Paulo, qui est le plus puissant du pays, a pris clairement fait et cause pour la destitution avec toutes sortes de moyens et de campagnes. Il n'a jamais eu une grande sympathie pour le gouvernement du Parti des Travailleurs. Il s'est engouffré dans cette brèche avec beaucoup d'énergie. Mais ça paraît même pas vraiment justifié, puisqu'il a plutôt bien. Enfin, le Parti des Travailleurs a beaucoup arrosé les classes les plus pauvres. C'était les fondements de son pouvoir. Il n'a pas particulièrement maltraité les entrepreneurs. Je crois qu'il y a une espèce de rejet vraiment maintenant presque épidermique et profond dans les classes supérieures et moyennes qui veulent plus entendre parler du Parti des Travailleurs. Ça se traduit par le fait que dès qu'il y a des moments de réservés aux partis politiques à la télévision, quand c'est le Parti des Travailleurs, les gens dans les quartiers plutôt chics de São Paulo, mais assez largement, sortent sur leur balcon et tapent sur des casseroles. Ils ne veulent même pas entendre parler la présidente ou son parti. Il y a vraiment un rejet très profond depuis sa réélection qui a été juste un peu juste et s'est traduit le lendemain par des mesures contraires à ce qu'elle avait annoncé. Ça n'a pas été du tout admis. Et donc, il y a un rejet vraiment très fort maintenant dans une assez large partie de la population.
Gilles Lapouge, la démocratie brésilienne est une démocratie relativement jeune. On voit au travers de ce procès en destitution de Dilma Rousseff qu'elle est gangrénée par des affaires de corruption. Qu'est-ce que ça révèle finalement sur le processus démocratique et sur l'histoire contemporaine du Brésil ?
Oui, en ce qui concerne l'histoire contemporaine, il est évident que le souvenir du coup d'État militaire est un traumatisme qui n'a pas été du tout oublié par le Brésil et on fait tout pour ne pas faire de coup d'État. En vérité, ils ne font pas un coup d'État, mais ils font une espèce de tricherie extraordinaire, très brésilienne d'une certaine manière, c'est-à-dire on accuse Dilma, dont on veut se débarrasser, pour ce qu'elle n'a pas commis. Et ce qu'elle a commis, on n'en parle pas. En vérité, c'est un mauvais président, incontestablement, ça ne marche pas. C'est pas tout à fait sa faute, mais en grande partie aussi. Mais on l'accuse de corruption, alors qu'on ne peut pas dire qu'elle soit parmi les plus corrompues, elle est peut-être parmi les moins corrompues. Et ses accusateurs, celui qui doit prendre le relais probablement, est déjà soumis à la justice, et la plupart de ces accusateurs sont des corrompus. Alors là, il y a quelque chose, une entourloupette extraordinaire, mais tout ça est complètement biscornu, comme l'histoire, ça c'est la Constitution qui le prévoit, de faire diriger le pays pendant 6 mois par une autre personne. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'autre personne ? Elle va lancer un programme, elle va faire des plans, c'est impossible, puisque dans 6 mois, peut-être, la précédente va revenir. Donc tout ça est complètement... En vérité, pour moi, tout cela révèle autre chose de beaucoup plus grave. C'est une coupure fondamentale à l'intérieur du Brésil. Coupure qui est très ancienne et qui a toujours été camouflée. On ne veut pas le dire, on ne veut pas le savoir. Stefan Zweig, qui a fait un très mauvais livre sur le Brésil.
Un livre que tous les Français ont lu quasiment.
Oui, Brésil, terre de l'avenir, je crois, ce qui est grotesque. Et il n'y connaît rien. Il dit, mais fait formidable, tout le monde s'aime dans ce pays, dans la rue, vous voyez, un noir qui donne la main à une blanche, etc., etc. C'est vrai, ça c'est l'astuce, l'intelligence extraordinaire du Brésil, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. Mais on sait très bien qu'au fond, il y a un racisme total, mais qui est vertical, c'est-à-dire, si vous êtes noir, vous êtes à peu près automatiquement en bas de l'échelle. Si vous êtes blanc, vous êtes à peu près automatiquement en haut de l'échelle. Et puis, il y a les mulâtres entre. Et ça, manifestement, c'est ce qui se passe.
Mais dans quelle mesure le racisme que vous jugez extrêmement présent au sein de la société brésilienne, dans quelle mesure le racisme expliquerait-il cette crise politique que connaît le Brésil aujourd'hui ?
Peut-être qu'il l'explique fondamentalement. En tout cas, il la montre, cette fracture, alors que jusqu'ici, elle a toujours été niée. Et de fait, ça ne se voit pas, c'est pas l'apartheid, c'est pas les États-Unis, c'est une société douce en apparence, et en vérité, aussi séparatiste, si j'ose dire, que la société, peut-être pas d'Afrique du Sud, mais que la société américaine.
Votre opinion à ce sujet, Maria Emilia Alanka?
Oui, je pense qu'il y a ce qu'on vit actuellement, c'est une espèce de revanchisme social. En fait, le Parti des Travailleurs a donné une possibilité aux gens pauvres d'aller aux centres commerciaux, d'acheter des frigos, d'acheter des belles voitures, de partir à Miami, comme la classe moyenne brésilienne. Et je pense qu'il y a toute une partie de la classe des riches, ou même la classe moyenne, qui ne supporte pas d'aller au restaurant, d'aller à la plage au même endroit où les gens pauvres y vont. Donc, ils ne veulent pas avoir les types qui prend son poulet et sa bière. Ouais. Donc, il y a tout un revanchisme social, et c'est là où je rejoins...
Ou que les bonnes, les femmes de ménage aient des droits. Ça, c'est insupportable.
Voilà.
Mais enfin, ça reste quand même une société. Alors, Brice Couturier.
Comment vous expliquez, alors que la Chambre des députés est approuvée par 367 voix contre 137, le lancement d'un processus de destitution de cette présidente? Ça voudrait dire que deux tiers des Brésiliens sont riches et qu'ils veulent opprimer le tiers des Brésiliens qui sont pauvres. C'est pas ce que je crois comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup plus que deux tiers de Brésiliens qui sont pauvres et moins d'un tiers de Brésiliens qui sont riches. Donc je comprends pas bien votre rapport entre la situation politique représentant, traduisant cette situation sociale.
On va poser la question à Hervé Théry, qui est au téléphone depuis São Paulo.
Je pense que le Brésil a, parmi les problèmes qu'il a affrontés maintenant, celui d'avoir une très mauvaise même classe politique. Les députés qui ont été élus, qui sont régulièrement élus, sont pas une émanation réelle de la société. Effectivement, il n'y a pas deux tiers de pauvres à la Chambre des députés. C'est vraiment le Brésil reste un pays très inégalitaire, très hiérarchique, très marqué par des élites qui ont été depuis cinq siècles au pouvoir, qui ont aboli l'esclavage le plus tard possible. Et donc cette classe qui est mal élue par un système très injuste, s'est un peu autonomisée. Et c'est elle qui a vraiment pris en grippe la présidente, qui l'a effectivement traitée par le mépris, ce qui n'était pas une bonne idée. Et donc je pense que là, il y a vraiment un décrochement.
Elle reste populaire dans l'opinion, d'après les sondages?
Non, je peux vous donner une idée, elle est en dessous de François Hollande.
Donc ça prouve qu'elle n'est pas si populaire que ça et qu'elle n'est pas la représentante attitrée des classes populaires, sinon elle serait très populaire.
Oui, exactement. Je pense qu'elle elle s'est aliénée l'opinion des députés, certainement, comme on vient de le voir, mais l'opinion en général est assez cassante, assez technique. Bon, je ne la connais pas personnellement, mais l'opinion qu'elle donne d'elle-même et à ses électeurs est assez désastreuse.
Mais au-delà de Dilma Rousseff, il y a également la question posée par Lula. Lula a été un symbole pendant très longtemps, au Brésil évidemment, mais aussi dans le monde entier. Le fait de dire qu'il est peut-être corrompu, je vais d'ailleurs vous demander, Hervé Théry, de nous dire aujourd'hui quelles sont les preuves qui permettraient d'étayer l'accusation de corruption à l'encontre de Lula. A-t-on affaire à un symbole qui s'effondre?
C'est une image qui est bien écornée. On lui a pas, On a pendant longtemps, il y a eu un scandale très lourd en 2005, dans le salon, où on a dit, oui, effectivement, le Parti des travailleurs s'est financé de façon tout à fait illégale, mais au moins Lula, lui, n'a jamais bénéficié personnellement. On s'est aperçu plus récemment, à l'occasion d'une série de déballages judiciaires, qu'il avait au minimum bénéficié de largesse de grandes entreprises pour un triplex en bord de mer, d'une part, et une maison.
Et au nom de sa femme, hein. Au nom de sa femme.
Oui. Bon. Au nom de sa femme, enfin, qui est officiellement même pas, je crois que c'est toujours au nom de l'entreprise, mais il en bénéficie à perpétuité, il commande des travaux, on a trouvé chez lui des factures des travaux faits pour lui, enfin bon. Les taux se resserrent de plus en plus, au moins de facilités qui lui ont été accordées. Et du coup, ça donne un peu l'idée, si vous permettez un parallèle un peu audacieux, ça donne l'impression que, en fait, il a choisi, c'est lui qui avait choisi Dilma Rousseff, qui n'avait aucun passé politique, il n'avait jamais été élu quoi que ce soit, même pas syndic de son immeuble, disaient les mauvaises langues. Il l'a imposé au parti. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. Et puis, une fois que ça a commencé à aller de travers, il en paye le prix. C'est un peu comme si on avait tenté une opération Poutine-Medvedev, mais avec Edith Cresson. Donc, ça n'a pas très, très bien marché.
Bon, en tout cas, cela signifie que l'image de Lula est plus qu'écornée, puisque si les accusations de corruption qui sont prononcées contre lui sont étayées, Gilles Lapouge, votre réaction ?
Oui, tout ce qui vient d'être dit est parfaitement exact. Il reste que Lula, pendant un certain temps, a eu une espèce d'état de grâce très très long, contrairement aux états de grâce qu'on connaît en France, qui durent en général 99 jours. Là, ça a été un état de grâce extrêmement long, et il a fait des choses incontestables. Cela dit, il s'est laissé aller, certainement, et ça, son image est complètement écornée. C'est navrant parce que son état de grâce tenait en partie au fait qu'on le tenait pour parfaitement pur, contrairement à un personnel politique qui est de toute éternité au Brésil totalement corrompu.
Pourquoi ?
C'est dans, sans doute, je ne sais pas, dans les gènes en tout cas.
Moi, bon, les gènes, ça ne provoque pas ce genre de choses.
Je me souviens que par exemple, quand j'étais au Brésil, il y avait le gouverneur de São Paulo qui s'appelait Ademar de Barros, dont le slogan quasi officiel était je vole, mais je réalise. Et ça marchait très bien. Donc, il n'y avait pas un rejet moral total.
Je crois qu'en France, des hommes politiques ont pu, dans le passé en tout cas, avec certitude, prononcer ce genre de mots.
Mais pas s'en vanter quand même. Tandis que là, c'était un argument de vote.
Maria Emilia Alencar, comment expliquer cette corruption qui semble endémique dans la classe politique brésilienne ?
Je ne dirais pas que c'est dans l'ADN des Brésiliens, ce n'est pas génétique, mais je pense que c'est un système politique, c'est un parlement avec plusieurs petits partis, et le parti qui est au pouvoir, il a toujours besoin d'alliés pour arriver là. Et là, il y a beaucoup de pots de vin qui circulent, et l'erreur, à mon avis, de Lula, c'était justement de ne pas avoir fait une réforme politique, parce que quand il a pris le pouvoir, il avait 87% de popularité.
Quand il l'a quitté aussi, il avait
87%. Et voilà, donc il avait une popularité incroyable. Et il n'a pas profité de ces moments-là pour faire une vraie réforme politique. Il est victime de je peux dire, de ces bandits au Congrès, parce que moi, j'ai entendu le vote. Donc, il parlait, les gens, c'était n'importe quoi. Il parlait le vote qui a donné le début de la motion de destitution, la procédure. Il parlait de Dieu. Il parlait en faveur des militaires. Il parlait pour les armements. Mais c'était un cirque. Et je pense pas que le Congrès, c'est les portraits du pays.
Gilles Lapouge.
Je crois que sur un autre plan, il a commis une faute énorme. Il n'a pas profité de la prospérité insensée du Brésil qui était due à l'environnement mondial, en particulier l'appétit de la Chine. Donc on avait beaucoup d'argent. Il n'en a pas profité du tout pour modifier la structure même de l'économie brésilienne. Et même, il a aggravé. Il est revenu un peu en arrière. C'est de plus en plus un pays primaire avec la nourriture, l'alimentation et le minéral.
Hervé Théry, on se souvient peut-être pas aussi que la dictature militaire a été renversée au Brésil en 1985, soit à une date qui n'est pas si éloignée que cela. La crise que traverse aujourd'hui la démocratie brésilienne signifie-t-elle que l'on est dans un processus de construction démocratique et non pas finalement de solidification démocratique ?
C'est une question de nuance, mais ce qui est certain, c'est que bon, pour l'instant, les institutions résistent plutôt bien. Tout ça se fait avec bon, des insultes mutuelles, mais pas un seul blessé, pas un seul mort, Dieu merci. Mais de toute façon, le Brésil lui-même est un pays encore en construction. Je pense que là, tout ça, ça fait partie, toute cette écume politique auquel on assiste, ça fait partie d'une transformation profonde que le Brésil n'a pas fini de réaliser. Son territoire est encore en construction, son économie évolue constamment. Tout ça se fait sur un fond donc de transformation très profonde. Bon, 30 ans de démocratie, c'est bien, mais c'est à peu près à l'exception d'une fenêtre démocratique après la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul moment où le Brésil ait connu la démocratie, donc il faut un peu de temps.
Il faut un peu de temps, mais si ce temps doit s'accompagner d'une classe politique que vous jugez, semble-t-il, tous plutôt médiocre, qu'est-ce qui peut se produire ?
Il est parfaitement clair qu'une réforme à froid n'est pas possible. À chaque fois que ça a été tenté, c'est retombé. Parce que, en fait, les gens qui auraient la clé de cette réforme politique sont les bénéficiaires, légalement et même illégalement, de la corruption. Et donc, ils n'ont aucune envie. Donc, peut-être que c'est à chaud que ça pourra se faire. On peut espérer, je vois pas très bien comment pour l'instant, mais que cette réforme est toujours repoussée, avec des mesures assez simples et dont qui sont lancées déjà ce qu'il faudrait faire, ça pourrait se faire à l'occasion de cette crise.
Brice Couturier.
Oui, enfin, il faut surtout voir que les BRICS, de manière générale, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qu'on nous donnait comme les locomotives de l'économie mondiale il y a 10 ans, sont aujourd'hui tous dans à peu près la même situation. C'est-à-dire qu'ils sont en état de ralentissement rapide de leur économie. Et effectivement, comme le disait Gilles Lapouge, un des problèmes de certains de ces BRICS, et du Brésil en particulier, c'est qu'effectivement, c'est un pays qui vit entièrement de ses exportations de minerais, de matières premières et de produits agricoles. Il n'y a pas eu de transformation de l'économie vers l'industrie, vers les services, comme c'est le cas en Chine et comme c'est le cas en Inde. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout simplement une erreur de pilotage de l'économie brésilienne? Et est-ce que Dilma Rousseff n'est pas sacrifiée pour des prétextes assez imaginé, on vient de le voir au cours de cette émission, à un échec économique de stratégie qui est beaucoup plus fondamental.
Gilles Lapouge.
Oui, je crois parfaitement cela, mais il me semble qu'au-delà de tout ça, il y a la longue histoire du Brésil, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas vraiment dégagés de l'époque coloniale. On dit la démocratie est récente, c'est vrai, encore qu'après 45, en principe, il y avait une démocratie très secouée d'ailleurs, avec des drames comme le suicide de Vargas par exemple, mais surtout il y a dans la mentalité une espèce de survivance du régime colonial, du temps de la colonie, qui était un temps parfaitement insupportable et d'une injustice totale. Et cette coupure dont je parle entre les deux portions du Brésil, c'est-à-dire la portion pauvre dont il se trouve qu'elle est la portion colorée, et la portion riche dont il se trouve qu'elle est toute blanche, ça c'est un héritage direct de la colonisation.
C'est-à-dire que finalement, vous considérez qu'un livre comme le livre par exemple de Sergio Buarque de Holanda, Maître et Esclave, qui décrivait cette situation, un Brésil extrêmement clivé avec une domination très forte et des injustices également criantes, et un livre encore d'actualité, même si il a été publié il y a une cinquantaine d'années, puisque Sergio Buarque et le père de Chico Buarque.
Oui, le père de Chico Buarque, oui. Je ne sais pas si ce livre était de...
Non, c'est plutôt de Gilberto Freire.
Il était de Gilberto Freire.
Ouais. Mais c'est un livre qui parle de cet archaïsme. C'est oui. Comme il a fait aussi...
C'est fondamental.
Casa Grande et Senzala, ouais, la ouais. Maison Grande ouais. Et l'endroit des esclaves.
Ouais. Mais Dilma Rousseff n'est pas spécialement noire, si je suis bien informé.
Non, je fais un parenthèse sur les livres.
Pourquoi serait-elle noire?
Non, parce que vous nous dites que c'est la destitution de Dilma Rousseff procède d'un racisme fondamental de la société brésilienne. Et je ne vois pas que Dilma Rousseff soit la représentante.
Non, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que les gens qui soutenaient Lula et qui sont aujourd'hui écrabouillés, c'est plutôt des gens de couleur. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça.
C'est pas plutôt un rapport nord-est-sud-est, nord-est archaïque, oui, et ça, sud-est riche, il y a aussi beaucoup ça, non?
Ce sont les mêmes clivages, tout ça. Ça se retrouve dans cet énorme clivage actuellement dramatique.
Hervé Théry, que va-t-il se produire maintenant? C'est compliqué comme question.
C'est la question à laquelle tout le monde aimerait savoir. Je pense qu'il y a des incertitudes. On en a parlé sur qu'est-ce qui va se passer au bout des 6 mois. Sur le modèle politique, sur le modèle économique, tout ça est ouvert. Je pense qu'il y a des évolutions intéressantes. Le fond de tout ça, c'est quand même la sortie des procès en corruption vient d'une indépendance de la justice qu'on a laissé faire son travail jusqu'à présent. Et dans ces derniers jours, le vice-président qui risque de prendre le pouvoir maintenant a dû, un peu à contre-cœur, s'engager à ne pas entraver la justice. Donc je pense que ce procès-là, cet ensemble de procès vont aller à leur terme. Donc au moins, on peut espérer que ça aille un peu mieux côté corruption. On peut rappeler quand même que la plupart des pays développés et aujourd'hui vertueux sont tous, sans exception, passés par des phases où la corruption était abondante. Les États-Unis du 19e siècle, par exemple. Donc peut-être que ce sera cette crise, une fois de plus, l'occasion pour le Brésil de se renforcer. Mais pour l'instant, il est vraiment un peu au fond du trou. Mais bon. Pour citer une blague brésilienne, on disait on croyait qu'on était arrivé au fond du trou, mais on a découvert que quelqu'un avait volé le fond du trou.
Merci, on terminera là-dessus. Pardon d'avoir confondu le livre de Sergio Buarque de Holanda